Bocuse. Bah, monument de la gastronomie française. Il me fait penser à un personnage de Ratatouille.
Bonjour à toutes et à tous, quel régal de vous retrouver pour un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen qui, vous allez voir, correspond parfaitement aujourd'hui à ce que vous avez besoin d'entendre, sachant que vous êtes encore sous citrate de bétaïne, que le foie gras du nouvel an a du mal à passer, qu'une huître pas fraîche vous pèse encore sur l'estomac et qu'il y a toujours plus de crémant d'Alsace dans votre sang que de globules rouges. Oui, aujourd'hui on a tous besoin d'une bonne détox, c'est pourquoi on va zoomer sur l'histoire de Paul Bocuse, le célèbre chef 3 étoiles pape de la nouvelle cuisine qui est un peu à la gastronomie, ce que Cyril Lacarrière est au journalisme, en tout cas selon le site journaltech.com, un dieu. Un jour d'ailleurs, les éditions Grasset publieront certainement un livre intitulé simplement « La carrière » avec ce bandeau « Du journalisme, il a fait un art, de son nom une légende et de sa vie un roman ». En attendant, c'est donc Paul Bocuse qui a eu cet honneur d'être le personnage d'un roman, celui de notre invité que je vais vous présenter dans un instant, un livre intitulé donc « Bocuse ». Avec le bandeau « De la cuisine, il a fait un art, de son nom une légende et de sa vie un roman ». Qui était le plus célèbre chef français de tous les temps? Comment a-t-il forgé sa légende? Quel est aujourd'hui son héritage? On va se plonger dans l'histoire de Paul Bocuse, qui ne partageait pas avec Cyril que le goût de la bonne chair. Il était aussi, comme lui, polygame. Un autre point commun qui ne mérite pas, selon Cyril, qu'on en fasse tout un plat, je le cite, la monogamie, c'est comme un plat sans sel, c'est peut-être sain, mais c'est fade. Oui, décidément, on va le voir, les chemins de Bocuse et la carrière se sont souvent croisés. D'ailleurs, le saviez-vous, Eugénie Brasier, dite la mère Brasier, fut la première compagne de Cyril. C'est son grand-père Jacques Lacarrière qui lui avait présenté.
Oui,
zoom zoom zen, c'est parti.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Gauthier Battistella.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes romancier, on vous doit notamment Un jeune homme prometteur en 2014 et plus récemment Chef, publié tous les deux chez Grasset. Vous avez aussi été journaliste gastronomique au Guide Michelin et vous sortez aujourd'hui une biographie romancée intitulée tout simplement, on l'a dit, Bocuse, le roman vrai du plus grand chef du monde disparu en 2018, 3 étoiles, pape de la nouvelle cuisine, bête médiatique aussi. Vous racontez comment Bocuse a incarné toutes les contradictions françaises et pourquoi il reste encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, le chef par excellence. Vous allez nous raconter tout ça. Juste le temps de vous présenter deux héritiers de l'exigence culinaire de Paul Bocuse. L'une ne jure que par le air fryer qu'elle a acheté en solde chez Lidl. L'autre se nourrit exclusivement de merguez, avec une préférence pour les fameuses saucisses demi-décongelées de la cantine de Radio France. Manon Mariani, Quentin Lhuis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Oui, c'est le seul plat à peu près comestible, la cantine.
Mais on les embrasse. Pour la cantine.
On les embrasse quand même, Manon.
Oui, oui.
Toujours, bien sûr.
Vous n'embrassez pas d'ailleurs le personnel de la cantine pour vous ne leur souhaitez pas les vœux.
Si, bonne année.
Oui, oui. Vous dites d'habitude aux petits personnels.
Oh, non, je n'ai jamais dit ça, arrêtez.
Vous exagérez. Maintenant, dans votre...
Faites pas passer pour ce que je ne suis pas.
Vous avez quand même dit, on embrasse le personnel.
Oui, mais parce que c'était une blague, on parlait. Oh là là.
Oui, Manon.
Manon, dans votre pièce jointe aujourd'hui.
Une émission culinaire qui date de 20 ans tout pile, celle sans qui Top Chef et Master Chef n'auraient peut-être pas pu voir le jour. Elle a notamment révélé un chef qui a un très bon restaurant à côté chez Quentin Lhuis.
Allez-y, donnez mon adresse si vous voulez.
J'ai dit à côté.
Vous pensez que vous êtes à un degré de notoriété qui fait que des fans, des groupies pourraient faire le siège de votre appartement si jamais on donnait votre adresse?
Pour paraphraser une collègue, des fois on reconnaît dans la rue.
C'est parce que vous avez un micro.
Exactement. Sans micro, on me laisse tranquille.
Ils n'ont plus réussi à sortir du studio. Quand il le regarde de là-haut s'enfiler ses odieuses merguez trempées dans de la maillot industrielle de la cantoche, Paul Bocuse a envie de vomir. Il a envie de prendre Quentin et de le secouer, ce qui, vu sa taille et celle de Quentin, aurait été possible. Seulement voilà, à part se désoler, Bocuse ne peut rien pour sauver Quentin des griffes de la malbouffe qui grignote son corps et sa santé jour après jour. Aujourd'hui, sa jeunesse lui permet encore de faire illusion, mais à force de s'envoyer des Haribo et des Kinder Bueno, son petit côté Timothée Chalamet risque de s'estomper au profit d'un gros côté Gérard Jugnot. Quentin, en attendant que votre karma calorique vous rattrape un jour, ça va arriver.
Clairement, vous êtes plus proche de Jugnot que moi. Mais
oui, vous y passerez bientôt, mon vieux. Si dans la rue, les gens se souviennent de Paul Bocuse, c'est un nom qui parle encore beaucoup.
Ah oui, non, c'est un nom. Surtout quand on prend le temps d'aller sur un marché, alors grand nom de la gastronomie pour certains, homme de télévision pour d'autres. Ce qui est certain, c'est que le patronyme ne laisse personne indifférent. Vous l'entendrez dans la prochaine demi-heure, dans ce micro, trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, dans le monde de la gastronomie, il n'y a pas que Bocuse qui a eu une vie incroyable. Comment, Manon? Il y a aussi Jean Humbert? Oui, oui, c'est vrai. Mais d'autres aussi. Nous partirons à la rencontre de ces chefs qui ont eu une vie romanesque, jalonnée d'anecdotes savoureuses. Est-ce que vous échapperez à l'anecdote de l'anguille de Maïté?
Là, voilà ma belle.
tu ne reviendras plus. Oh.
Pas sûr. Juste avant 17h, nous serons rejoints par l'ingrat Harold Darbé, qui, grisé par son succès, a oublié qu'il le devait essentiellement à Zoom Zoom Zen, qu'il n'a pas cité une seule fois dans son carrousel Instagram 2025. Après 17h, restez avec nous, on zoomera sur l'actu de ce 7 janvier. Et comme c'est la journée spéciale BD sur Inter, on recevra l'autrice Blanche Sabat et mon copain Philippe Geluck, le papa du chat. Mais d'abord, Gauthier Battistella, on se penche donc sur l'histoire du plus célèbre chef français, au-delà de la France d'ailleurs. Est-ce que pour vous, Paul Bocuse reste à jamais le plus grand chef du monde ?
Je ne crois pas qu'il y ait un plus grand chef du monde. Ce que Bocuse reste, c'est un nom, et ce nom-là a libéré complètement les cuisiniers. On est à la fin des années 60, les cuisiniers, juste pour donner un exemple, avaient une espérance de vie de 50 ans. Ils étaient au sous-sol, ils travaillaient, ils buvaient les vins de sauce. Et ce qu'a fait Bocuse, c'est qu'il les a sortis de là. Il en a fait des rockstars. C'est-à-dire que sans Bocuse, pas de Top Chef. Voilà.
Est-ce que il a été l'étincelle qui a tout déclenché. Quoi.
Il a poussé, il a amené avec lui toute une génération de cuisiniers, qui sont les cuisiniers notamment de la Nouvelle Cuisine. On en parlera peut-être tout à l'heure. Bocuse n'était pas du tout Nouvelle Cuisine.
Oui, il disait qu'il se revendiquait pas du tout Nouvelle Cuisine.
Mais il a compris que s'il ne l'embrassait pas, il serait dépassé par elle. Donc il prend la Nouvelle Cuisine et il sort les chefs, il leur redonne de leur orgueil. Et il va créer la veste bragard, le col bleu-blanc-rouge, la toque. Enfin, il va créer leur imaginaire, tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Alors que pour la plupart d'entre nous, le début janvier est synonyme de diète, pour lui, pas question de faire un régime qu'il considère tout simplement comme une insulte à la mémoire de Paul Bocuse. C'est pourquoi à midi au self, quand la cantinière lui a proposé une jardinière de légumes de saison, blettes, topinambours panés, il s'est exclamé
« Où sont les poulards ? J'ai faim ! Où sont les rôts, les rôtis, les saucisses ? Où sont les fèves, les pâtés de serre ? Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre, un porcelet, une chèvre en rôti, quelques signes blancs bien poivrés ?»
Non, désolé, monsieur Lacarrière, il n'y a que la jardinière de légumes, c'est excusé, la malheureuse cantinière. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors racontez-nous, vous qui avez l'eau à la bouche cet après-midi, Bocuse, d'où ça sort ?
Imaginez la France des années 50, la grande cuisine est figée, les plats sont lourds, les sauces sont épaisses, le service est compassé, et les chefs sont souvent des tyrans cachés derrière leur piano. Tellement cachés qu'on ne les connaît pas. Leur nom reste derrière la porte de la cuisine. Et c'est là qu'arrive, vous l'avez commencé à le dire, Paul Bocuse, l'histoire d'un homme qui a refusé d'être invisible. C'est dans la région lyonnaise que tout commence. Le jeune Paul fait ses classes. C'est chez la célèbre mère Brasier, Eugénie Brasier de son vrai nom. Puis chez Fernand Point à Vienne, deux monuments. 1961, première étoile au guide Michelin pour son restaurant Collonges au Mont d'Or. 1965, troisième étoile.
Mais Bocuse, ça va être beaucoup plus que ça, Cyril.
Ça va être la révolution de la cuisine. Avec ses amis Trois Gros et Verger, il invente la nouvelle cuisine, des sauces plus légères, des produits frais, des cuissons courtes. Et puis Bocuse, c'est aussi un chef qui sort de la cuisine. Il est le premier à apposer sa signature sur ses plats et ses produits dérivés. Il se lance à la conquête du marché américain et lance des concours. Il fait de la cuisine française un produit d'exportation de luxe. Alors d'où ça sort Paul Bocuse ? Eh bien d'un talent, d'une inspiration et d'une immense ambition. Et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Gauthier Battistella. Alors l'histoire de Paul Bocuse, elle est tellement dingue. On va l'apprendre chronologiquement. Vous racontez que toute sa vie sera marquée par la détermination à restaurer l'honneur du nom Bocuse. Il avait un honneur à restaurer ?
Alors, c'est une bien étrange histoire. Son père était aubergiste. Et donc, le petit Paul grandit, vous l'avez dit, sur les bords de Saône. Mais son père n'avait pas le droit d'utiliser le nom Bocuse. Parce que le grand-père de Paul, donc le père de Georges, le père de Paul Bocuse, pardon, j'espère que je suis clair, avait un dépit amoureux, c'est-à-dire que sa femme avait été séduite par certaines personnes, dont Auguste Lumière. Ah. Et de dépit, il a vendu le nom Bocuse à un Russe. Ce qui fait que dans la rue, on l'appelait Bocuzov.
Ah ouais.
Et toute sa vie, Paul a très très mal vécu ça. Il a vécu ça, et c'est intéressant que vous posiez cette question, parce que je passe assez de temps sur l'enfance du petit Paul, qui est déterminante dans ce qui va devenir et le grand chef, c'est qu'il voulait quelque part venger l'honneur de son père. Il voulait retrouver son nom, et d'ailleurs il va l'étaler en lettres capitales sur son restaurant. Et surtout, c'est un moment où, je le disais en début d'émission, les chefs sont rivés à leur cuisine, ils ne sortent pas, et son père boit beaucoup de Porto, il appelait ça le soleil noir, son petit soleil noir, et quelque part ces trois étoiles, c'est pour son père, mais son père sera pas là pour les voir.
Il verra jamais ces trois étoiles.
Il verra la première étoile.
Il verra déjà la première. Est-ce qu'il a envisagé...
Il meurt un an après l'obtention de la première étoile.
Est-ce que le petit Paul Bocuse, il a envisagé autre chose que la cuisine pour tenir sa revanche, ou est-ce que...
ça a toujours été son objectif.
Je crois qu'il n'a pas eu le choix. Il a grandi dans les produits. Après, ce qu'il faut voir, c'est que Paul Bocuse, à la fin de la guerre, il s'engage et il est mortellement touché par une...
Attention. Là, ça sera l'objet d'une question dans le quiz. On va sauter cette petite partie.
C'est
un moment sacré de l'émission. Et donc, effectivement, on saute la petite partie de la guerre.
Je vous réponds quand même. À un moment, Paul s'imagine un peu loubar. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, à la Libération, il monte à Paris, il siphonne les jerrycans des jeeps américaines, vend l'essence au bordel, etc. etc. Oui. Et c'est son père qui le ramène dans l'auberge familiale.
Cyril parlait d'Eugénie Brasier, auprès de qui Paul Bocuse s'est formé plus tard. C'était qui ? Il faut rappeler qui était Eugénie Brasier.
Non mais là, il nous faut 3 heures d'émission.
Rapidement.
Eugénie Brasier, c'est la grande mère de la cuisine française. On appelle les mères, c'est dames nourricières. Mmh. C'est-à-dire qu'à Lyon, les canuts venaient au bar et puis elle leur faisait toujours une petite soupe. Et Eugénie Brasier a une vie incroyable elle aussi, c'est-à-dire que une vie de souffrance. Elle est en vérité la première féministe. C'est-à-dire que je saurais même pas par où commencer. Elle tombe enceinte à 18 ans du mauvais bonhomme. Son père la chasse de chez elle. Elle devient nourrice à Lyon, chez les Mia, qui produisent des pâtes. Et un jour, elle remplace la cuisinière des Mia et elle se découvre...
Un talent.
C'est-à-dire qu'elle apprend la cuisine en cuisinant. Et puis, elle est arrêtée après la guerre parce qu'elle planquait des rouelles de gruyère dans sa cave. Voilà. Elle passe 3 jours en prison. Beaucoup de gens ont été arrêtés. Beaucoup de cuisiniers ont été arrêtés à la Libération. Dont Fernand Point. Oui. Dont Fernand Point, accusé d'avoir dépensé trop de crème fraîche, et il répondra « C'eût été trahir le gratin dauphinois que de ne pas lui donner la crème fraîche. »
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Zoom sur le plus grand chef français de l'histoire, le romancier, ancien journaliste gastronomique au Guide Michelin, Gauthier Battistella est avec nous pour nous raconter son Bocuse, titre du dernier livre qu'il sort aujourd'hui chez Grasset. Gauthier, vous revenez dans ce livre sur cet adage auquel Bocuse aura toujours été fidèle, travailler comme si on devait vivre 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain. Qu'est-ce que ça dit de sa personnalité ?
Ça dit beaucoup de choses, ça dit quasiment tout de Paul Bocuse. Et donc il est blessé à la guerre, il est à 2 doigts de mourir, on lui transfuse du sang américain, les GI lui tatouent.
C'est l'anecdote qu'il ne faut pas donner.
D'accord.
Alors tant pis, donnez-la quand même.
Il lui tatoue un coq sur l'épaule. Et d'ailleurs, Bocuse disait, quand les questions des journalistes m'ennuient, je lui parle à mon coq. Voilà, je me baisse vers lui. Et donc il se dit que tout ce temps qu'il a en plus, c'est du temps gagné. Et c'est une force qui va. Il a un instinct qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que tout ce qu'il tente, il le réussit.
Il n'a jamais connu d'échec, Paul Bocuse.
Une fois, il a raté le concours du MOF. C'est le seul échec qu'il connaisse.
Un chef qui aura durablement marqué Paul Bocuse, vous l'avez évoqué, c'est Fernand Point. On l'a un peu oublié, mais c'est l'un des premiers 3 étoiles au monde. C'est là que naît l'ambition de Paul Bocuse.
Fernand Point, en effet, le premier 3 étoiles en 1933, en même temps que Eugénie Brasier. Fernand Point, ce qu'il a appris à Bocuse, c'est la mise en scène de lui-même. C'est-à-dire que Bocuse est quelqu'un de timide. Et c'est ça qui est d'assez fou, c'est que cet homme qui vient de milieu rural et de l'invective va apprendre le pouvoir des mots. Et c'est Point qui lui a appris ça. Parce que Point était ami avec Guitry, etc. Et Point était toujours habillé. C'est-à-dire qu'il n'était pas en uniforme de cuisinier. Et il a vu en Point l'avenir du cuisinier. Et Bocuse deviendra l'après-point.
Les choses s'enchaînent finalement assez vite, puisqu'en 1954, il retourne travailler dans l'auberge familiale. En 58, il obtient sa première étoile Michelin, donc 4 ans après. La deuxième en 62, la troisième en 65. Il dit une phrase incroyable quand il reçoit sa 3e étoile. Qu'est-ce qu'il dit ? Ça vous dit un truc ?
Non.
Bon, on va pouvoir commencer à travailler.
Ah oui, on va pouvoir commencer à travailler. Oui, parce qu'à l'époque, il faut imaginer que, quand même, juste pour vous donner une idée, je vous donne juste un exemple. Pour faire les sets de table, il ramassait les feuilles de platane dans la cour, qu'il congelait, qu'il décongelait, et on mangeait sur ça. Les toilettes étaient toujours à l'extérieur. Ils avaient très, très, très peu de moyens. Et là, en effet, à partir de là, c'est le début. Hein. Très vite va arriver le Japon. On en parlera peut-être du Japon. Les États-Unis.
On va en parler de l'aventure américaine, évidemment. Il faut que vous nous racontiez, il faut qu'on s'arrête sur ce terme de nouvelle cuisine, un terme qui est indissociable de Bocuse, pourtant il l'embrasse un peu à contre-cœur.
Il embrasse totalement à contre-cœur. Ce qu'il se passe, qu'on est dans les années 60, il y a un désir de nouveauté. Il y a déjà la nouvelle vague, la nouvelle gauche, le nouvel ops.
Il manquait la nouvelle cuisine.
Alors, cette nouvelle cuisine, en vérité, c'est l'évolution naturelle de la gastronomie. C'est que tout le monde allège tout le monde. C'est-à-dire que Escoffier a allégé Carême. Alléger, ça veut dire quoi? Par exemple, pour une sauce, avant, on mettait de la farine. Maintenant, on la fait réduire, par exemple. Mais voilà, Henri IV déjà mangeait de la salade. Voilà, donc rien de nouveau là-dedans. Et on a deux compères qui sont Goemio, deux journalistes, qui arrivent et qui vont donner un nom à quelque chose qui existait déjà. Donc un soir, ils arrivent chez Bocuse et Bocuse leur sert une salade de haricots verts craquant. Et alors là, la nouvelle cuisine existe, je l'ai rencontrée. Et ils savent qu'en disant ça, ils deviennent aussi propriétaires de ce nom de nouvelle cuisine. Et donc Bocuse les envoie chez les frères Troisgros, avec cette fameuse recette du saumon à l'oseille. Et très vite, il commence à se dire, il y a un truc à jouer là-dedans. Et Bocuse sent que, quand même lui, il est tout sauf nouvelle cuisine. Bocuse, il est héritier de la mère Brasier, qui elle-même tient ses recettes de la mère Filloux, où en vérité, Bocuse n'a rien inventé comme cuisine. Et il se dit, si la nouvelle cuisine me dépasse, je n'existerai plus, je deviendrai ringard. Donc il décide d'être ce héros de la nouvelle cuisine. Il prend les copains, Michel Guérard, Troisgros, Louis Outiel à Napoule, Chapelle, et ils vont devenir la grande bande de la grande cuisine française. Et ça va durer une dizaine d'années.
Si Bocuse l'avait croisé, il lui aurait certainement mis son poing dans la gueule. En lui expliquant qu'on ne pouvait pas se nourrir à 34 ans comme un ado de 14 dont le métabolisme élimine toutes les saloperies alors que lui se prépare un diabète de type 2 dont même l'Ozempic n'arrivera pas à venir à bout. Quentin,
vous verrez.
De par votre alimentation sans queue ni tête, vous faites honte à la gastronomie française. C'est donc absolument aberrant qu'on vous ait choisi, vous, pour aller interroger des gens sur Bocuse. En même temps, vu le froid, ni Cyril ni moi n'y serions allés.
Ah oui, c'est clair. Il faut un peu de courage pour y aller en ce moment. J'étais sur le marché ce matin, palette de légumes, odeur de poulet rôti, ça s'interpelle et ça parle fort. C'est ici que je tombe sur Rose.
Bonjour Rose, enchantée.
Quentin, enchanté.
Enchantée.
Bienvenue sur France Inter.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous avez choisi comme fleur?
Des jolies fleurs, alors j'ai pas le nom, mais ça fait très champêtre, j'aime beaucoup.
C'est quoi votre truc dans la vie à vous?
Moi je suis encore étudiante, mais j'adore la cuisine. J'ai failli en faire mon métier et finalement c'est juste une passion maintenant, mais je cuisine beaucoup et j'aime trop faire le marché pour concocter plein de recettes ensuite.
Elle découvre le nom du jour de Zoom Zoom Zen accompagné d'une photo du chef.
Bocuse, monument de la gastronomie française. Il me fait penser à un personnage de Ratatouille.
Je crois qu'il a inspiré.
Mais c'est ça, voilà, c'est pour ça, et ça ne m'étonne pas. La toque vraiment à l'ancienne du chef. La médaille aux couleurs de la France, avec sa blouse, avec écrit Paul Bocuse. J'adore, il a un truc tellement confiant, enfin on sent que c'est de la cuisine de famille un peu, mais on a envie de lui faire confiance.
Eh oui, on a envie de lui faire confiance, et on a bien fait de lui faire confiance. Avant de la quitter, elle me livre, elle, une de ses recettes qui lui fait penser à Bocuse.
On achète souvent des petites côtelettes d'agneau, des carrés d'agneau, qu'on fait avec du beurre au thym, et qu'on sert soit avec des petites pommes de terre au four ou une bonne purée avec beaucoup de beurre, encore une fois de la noix de muscade et des feuilles de laurier dans l'eau chaude pour faire cuire les pommes de terre. Ça rajoute beaucoup de goût, et avec le beurre qu'on récupère de nos côtelettes dans lesquelles on les a fait cuire, on asperge la purée et les carrés d'agneau.
Et elle m'a donné faim. Plus loin, ce monsieur qui vient de faire peser ses poireaux, ses pommes de terre et ses navets. Si je vous dis Bocuse, vous me dites...
Le cuisinier, le chef. Célèbre chef connu dans le monde entier, de Lyon. Plusieurs maîtresses, une vie sentimentale un peu rocambolesque.
Vous retenez plus ses maîtresses que sa cuisine, c'est marrant.
Je pense que ça va avec l'amour et le reste, ça va avec, non? Je sais pas. C'est une truculence.
Une truculence. Est-ce que l'épicurien Bocuse a goûté au péché? C'est aussi ce qui est ressorti de mes rencontres, comme pour cette petite dame.
C'est un sacré cul béni, mon cher Quentin.
En mitouflé dans son manteau de fourrure, les cheveux rouges assortis à son rouge à lèvres et son maquillage légèrement appuyé. Bonjour madame.
Bonjour.
Quel est votre prénom à vous?
Mon prénom est Annick.
Vous avez quel âge, Annick?
C'est secret.
C'est secret, mais elle écarquille quand même les yeux en découvrant...
Bocuse.
Vous l'avez connu, vous?
J'ai connu de réputation, oui. C'était un grand cuisinier lyonnais. Il a eu une double vie, une triple vie, je ne sais pas. Mais pourquoi vous faites une pub pour M. Bocuse ou pour sa succession?
Non, on parle de l'héritage Bocuse.
Ah, l'héritage Bocuse, pour moi, il n'en a pas grand... Et c'est pas un homme qui a représenté tellement de choses pour moi. parce qu'il a bien profité de son nom pour gagner de l'argent en faisant des recettes soi-disant sensationnelles, mais qui étaient du surgelé. Hein.
le voilà rhabillé pour l'hiver, notre cher Paul. Mais on va se rattraper. On va se rattraper maintenant avec Séverine. Elle est prof d'élèves de 4e et de 3e.
Bocuse, Paul Bocuse, cuisinier d'exception. Bocuse a repris aussi à vulgariser des idées, c'était forcément plus moderne, et s'est appuyé sur la télévision, de nouveaux médias qui allaient avec. Ça permettait de faire rentrer en fait, l'univers de la cuisine gastronomique, ce qu'on appelait la grande cuisine, qui est un univers très masculin, de le vulgariser, le rendre accessible à toutes les cuisinières quelque part. Donc là-dessus, c'était très bien.
Et puis, c'est vrai qu'il s'adressait aux femmes.
Il s'adressait aux femmes et également aux enfants, en fait. Il avait sorti des ouvrages de cuisine pour les enfants, pour faire des mousses au chocolat, enfin des petits plats avec les enfants. Et là-dessus, c'était très intéressant. Enfin, je pense que c'était une très bonne idée.
Et ouais, il y a aussi toutes ces émissions de télé. J'ai retrouvé une archivina en préparant l'émission où il fait cuire une omelette directement dans sa cheminée. J'ai trouvé ça formidable. Pour Norbert, ma dernière rencontre, Bocuse, ça compte beaucoup. Notamment une recette qu'il cuisine à ses copains.
Des petits navets glacés au vinaigre.
Des petits navets glacés au vinaigre ?
Oui.
Ça, c'était une recette Bocuse ?
Oui.
Et vous la faites, vous ?
Oui. On pèle les navets, on met du beurre, un peu de sucre, du sel, et puis on laisse cuire très doucement. Ouais. Et à la fin, on les glace avec un filet de vinaigre. Ça...
Quel héritage il a laissé, Bocuse ?
Oui,
il a créé une marque, quoi.
Non, il a créé une légende.
Eh ouais, la déclaration d'amour à la légende. On ne déconne pas avec Bocuse. Un précurseur qui a fait rayonner la France, qui pour moi avait de faux airs de De Gaulle, mais avec une toque et un tablier, c'était le bon vivant, celui avec qui au comptoir on devait pouvoir partager une suze. Santé, Bocuse.
Il est fier, il est fier.
J'aime ça chute. On vous affichait ce petit rire que nos auditeurs ne voient pas, mais cette fierté.
Satisfait.
Ouais, c'est magnifique. Gauthier Battistella, ce qui est étonnant dans la rue, c'est que beaucoup de gens sont au courant de la double vie, voire des triples vies, de la triple vie de Paul Bocuse, et que parfois ça les dérange, en tout cas ça les questionne. Moi, je ne pensais pas que ça serait parmi les réactions qu'on aurait.
Non, mais je suis surtout étonné que les gens, j'ai l'impression, connaissent Bocuse, même dans son intimité, en effet, oui. Et la révélation de sa triple vie, on va appeler ça comme ça, est pourtant assez tardie, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on l'apprend 10 ans ou 15 ans avant sa mort. Non, il avait en effet trois femmes. Raymonde, la première, la mère de Françoise, puis Ramon, c'est-à-dire il y a un dé de différence, qui est la mère de Jérôme Bocuse, de son fils, et enfin Patricia, qui est la dernière femme.
Mais les trois étaient au courant que les autres existaient.
Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'elles s'entendaient bien, mais il y avait...
C'était tacite.
Il y avait une tolérance et Bocuse voyageait beaucoup et Raymonde était un petit peu Pénélope qui attendait à Ithaque.
Mais ça a choqué les gens quand ils l'ont su, ça ?
Je suis pas sûr. Je pense que ça l'a humanisé. Mmh. Voilà. Je pense.
J'ai regardé aujourd'hui, on trouve sur le site de la maison Bocuse des bocaux en verre avec son pot-au-feu, sa patate au chou, des plats préparés. Alors, c'est pas du surgelé, mais Annick, elle a pas tout à fait tort. On continue quand même surfer.
C'est devenu un business.
Sur son nom. On peut le dire.
Oui, absolument. Mais il faut quand même imaginer son empire. C'est que il a cette adresse au Japon. Il a très tôt quadrillé Lyon avec ses brasseries comme un ring de boxe. Et personne n'entrait à Lyon sans avoir son assentiment. Et aux États-Unis,
c'est presque mafieux. Pardon, hein, mais.
Il a un côté Don Corleone.
Ouais. Ouais.
Et d'ailleurs, dans mon livre, il y a tout un chapitre qui s'ouvre. C'est tout le début du Parrain que je reprends et où Marlon Brando et Paul Bocuse.
Et il défaisait les réputations. Il y a des chefs aujourd'hui qui sont là parce qu'il les a cautionnés et d'autres qui ne sont pas là parce qu'il a coupé court à leur carrière.
Bah, disons qu'il ne faisait pas bon être son ennemi. Voilà. Puis il aimait les farces aussi, parfois des farces assez violentes. Je vais vous en donner, vous donner un petit exemple, c'est que pour s'excuser d'avoir blessé quelqu'un, un notable de Lyon, il lui fait envoyer une très belle plante, voilà, un peu comme un cheval de Troie, si vous voulez. Donc le monsieur est très content, il fait entrer sa plante dans son appartement et dans la terre, il avait planqué des tripes de lièvre qui, au bout de 2-3 jours, commencent à pourrir, à dégager une odeur pestilentielle, et le pauvre monsieur, en voulant se débarrasser de tout ça bloque les poubelles de l'immeuble.
C'est méchant.
C'est cocasse, c'est cocasse.
C'est une bonne idée, moi je vais en faire livrer une assiette la carrière.
Ça m'aurait pas fait rire.
Ça m'étonne pas, Quentin.
France Inter. Zoom zoom zoom. Mathieu Noël.
Les jeux trop compliqués, Manon Mariani n'aime pas ça. C'est pourquoi à Noël, elle a vite abandonné Culturama, le jeu société créé par Télérama qu'elle avait pourtant offert à ses parents, pour se tourner vers un autre jeu moins éprouvant intellectuellement, le quiz spécial Père Noël est une ordure, qui consiste à répondre à des questions portant uniquement sur le film Le Père Noël est une ordure.
C'est très dur, hein.
Elle doit être forte à ce jeu-là.
Je suis désolé Manon, mais non, je sais que vous en avez fait le vœu pour 2026, mais le Zoom Zoom Test ne peut pas porter seulement sur l'univers du Splendide. Le gai savoir vaut mieux que ça. D'autant qu'aujourd'hui, on
devrait sortir
cuisine.
Un jeu de société. Hein.
Mais vous savez que c'est dans les tuyaux,
oui, bah,
depuis
ça,
3
ça
ans.
Ça fait 4 ans, oui.
Depuis 3 ans. D'autant qu'aujourd'hui...
Dans quels tuyaux?
Dans les tuyaux c'est de la grande maison, de c'est la bouché. Grande maison c'est de bouché. La radio. Aujourd'hui, on parle cuisine. Pour changer d'hier, on a parlé galette des rois. Un quiz sur les anecdotes insolites des grands chefs a commencé évidemment par notre cher Paul Bocuse, qui avait, je sais c'est fou, un point commun avec Manon et Cyril. Selon vous, lequel? Et c'est une question vraiment très dure. Et je vous demande de mobiliser tous vos neurones.
On va chercher.
Et surtout d'oublier ce qu'on a dit dans le début de l'émission. Il était souvent bougon, limite renfrogné. Il était tatoué, ou il était allergique à la coriandre comme Cyril, et il détestait le fromage comme Manon, sachant qu'il peut y avoir plusieurs réponses, évidemment.
A et B, A et B, A et B,
B et C,
B et B, et
B et C.
C.
A et B,
A B C, allons-y.
Ils sont grognons.
Gauthier, qu'est-ce que vous répondez, vous?
T'es grognon.
Il pouvait être grognon.
Ouais. Ouais.
Bah, ABC A et
B.
Alors.
Non, c'était les réponses A et B seulement. Bonne réponse de Quentin. Lui, Paul Bocuse était effectivement souvent bougon, limite renfrogné, et surtout il était tatoué. Un tatouage qui n'avait cependant pas fait réaliser comme par un metteur en scène. Enfin, pardon, je sais plus ce que je raconte. C'était trop compliqué.
Ça s'appelle un AVC.
Oui, ça s'appelle un AVC en direct. Ça arrive au meilleur et ça arrive aussi au moins bon. Un tatouage qu'il n'avait cependant pas fait réaliser par un metteur en espace dermique dans un tattoo shop éphémère du 11e arrondissement, le genre d'établissement où Pierre Courade ira se faire percer l'oreille vendredi, signalons-le. Crise de la quarantaine quand tu nous tiens. Non, Paul Bocuse s'est fait tatouer dans des circonstances assez différentes. Nous sommes en 1944. Et pendant que le grand-oncle de Quentin, le négociant opportuniste Adolfo, lui, fait le meilleur chiffre d'affaires de sa vie en vendant du beurre aux Allemands, certains Français, eux, résistent, monsieur. C'est le cas de Paul Bocuse qui, à 16 ans, s'engage dans l'armée de la libération du général de Gaulle. Envoyé en Alsace, il échappe de peu à la mort alors que son régiment est décimé, touché à quelques centimètres du cœur, un contingent américain vint à son secours et lui transfuse le sang d'un GI. Ça fonctionne, il est sauvé, et en souvenir, parce qu'on savait déconner à l'époque, le GI lui tatoue à l'encre noire sur l'épaule gauche une croix de Lorraine, comme celle que Cyril a dans le dos,
ça va aller.
Coq, comme celui que Cyril a sur la fesse, est-ce que ça serait pas un coq? Ou un petit dauphin, parce que le GI était un grand sensible.
B.
Bah oui.
Oh, c'est fou, Manon a été plus rapide que vous, Quentin.
Vous êtes imité le coq.
Mais non, ça ne fonctionnera pas, Quentin, il faut répondre au bon moment de l'émission.
C'est horrible.
C'est évidemment un coq qui trônait sur l'épaule de Paul Bocuse, qui est souvent présenté comme le plus grand chef de l'histoire, mais n'oublions pas qu'avant lui, il y a quand même eu Vatel. François Vatel, pâtissier traiteur, était au XVIIe siècle l'intendant et maître d'hôtel français le plus célèbre, puisque c'est lui que le roi Louis XIV avait choisi pour organiser ses plus fastueux banquets.
Ah, mais il y a eu un film,
une carrière
avec Gérard Depardieu.
Qui va hélas se terminer en queue de poisson, puisque Vatel va réagir à un retard de livraison de poissonniers en se suicidant. En eau de boudin, car Vatel est mort étouffé en goûtant un morceau de boudin blanc. Ou en cacahuète, à cause d'un choc allergique du vicomte de la Tour de G à une sauce grand veneur contenant des fruits à coque. Vatel sera pendu.
B.
C'est cette histoire du boudin, vous en savez, parce que vous avez vu le film avec Gérard Depardieu, vous vous souvenez de la scène où Gérard essaye d'avaler le boudin. D'un seul coup, il meurt. Fausse route de GG.
Je pense que c'était un rêve.
C'est une bonne réponse de Quentin. Lui, dramatique sens de l'honneur, même si je pense, enfin j'ose espérer, que le chef cuisinier de la cantine de Radio France préférait lui aussi mettre fin à ses jours que de rater la cuisson d'un poisson. C'est bien normal. La France est la mère patrie de l'excellence culinaire. C'est pourquoi j'en reviens à notre cher Bocuse, qui a été formé, comme vous le savez, à l'école de la mère Brasier et de Fernand Point. Parmi les trois affirmations suivantes concernant ces deux menteurs, laquelle ou lesquelles sont vraies? Eugénie Brasier buvait son magnum de champagne tous les jours. Fernand Point était le premier chef à avoir 2 fois 3 étoiles au Michelin. Ou, réponse C, c'est l'inverse.
C.
B, A et C.
Vous vous enlisez dans les méandres de vos propres neurones. Quelle jugeote, Manon.
Elle aurait pu faire son magnum de champagne, la mère Brasier.
Elle aurait pu, mais c'était l'inverse.
C'est l'inverse de ce que Mathieu vient de dire.
Vive le mentorat au champagne, une habitude qui a valu à Fernand Point le surnom de magnum. C'est...
Ah, d'accord.
Ça y est, très bien, il vient de comprendre. Il vient de comprendre.
C'est Fernand qui buvait son magnum.
Voilà.
Ah, très bien. C'est pas clair.
C'était très clair. La réponse, c'est l'inverse.
Non, non.
Et quant à la mère Brasier, en devenant la première femme chef à être deux fois triplement étoilée, et ce sans jamais utiliser une seule fois un air fryer, mais non, elle a marqué l'histoire un peu comme Julia Child. Vous connaissez Julia Child?
Eh bien,
justement, elle chiale. Elle chiale à l'heure où nous parlons, parce que je ne poserai pas la question qui l'a concernée, puisque nous n'avons plus le temps.
Ah
nous
bon,
filons vers la dernière question.
Ah oui.
Pour terminer, nous prenons l'Eurostar du Gai Savoir, direction le Mordor culinaire, à savoir l'Angleterre. Oh. Vous connaissez évidemment Gordon Ramsay, le créateur de l'émission culte Cauchemar en cuisine. Ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'à la base, Gordon Ramsay n'avait pas prévu de devenir chef. Il se destinait à une toute autre carrière. Selon vous, laquelle ? Il était le premier bassiste du groupe Oasis, mais son trop fort tempérament n'a pas matché avec les frères Gallagher.
Non, ce serait fou.
Il était parti pour devenir footballeur professionnel, il jouait pour les Glasgow Rangers, mais il s'est fait les croisés. Où il devait intégrer le MI6, les services secrets britanniques, mais il a échoué à l'épreuve de tir.
J'ai dit avant.
Qui a dit avant ?
Ah, j'ai dit avant, arrêtez.
Bonne réponse de Manon Marianne.
Ah, c'est fou.
Dans le doute, c'est toujours Manon.
Mais mettez la bande.
Gordon Ramsay rejoint la longue corde des sportifs de haut niveau qui ont dû se réinventer suite à une blessure. Le plus célèbre exemple étant évidemment le chanteur préféré de Manon.
De quoi ? Mais j'écoute, Quentin m'a perturbé. Vous disiez
Quentin
quoi ?
Quentin réussit le prodige de parler à la fois à l'antenne pendant que je parle et en même temps à la régie. Ce qui fait qu'il ne peut évidemment pas entendre ce qui se passe.
Techniquement pas possible.
Vous prenez 5 points de pénalité dans la gueule, mon petit Quentin. Ce qui fait que vous avez perdu le quiz. L'autre sportif qui a dû mettre fin à sa carrière alors qu'il était sélectionné au Real de Madrid.
Quoi ?
Qui est ce chanteur ? Il est devenu chanteur. Mais c'est enfin, c'est Julio Iglesias, bien sûr. Vous les femmes, votre chanson préférée, Manon. Il l'a écrite pour vous quasiment. Effectivement, victoire de la résilience et victoire de Manon Mariani, victoire logique et largement méritée.
J'avais en plus Julio.
Son nom, oui, c'est dommage. Son nom brille encore au firmament de la gastronomie française. Zoom cet après-midi sur Paul Bocuse avec Gauthier Battistella qui sort un roman biographique consacré au célèbre chef. Gauthier, vous racontez que Paul Bocuse passe à la télévision pour la première fois en 1956. C'était extrêmement rare, un chef à la télé à ce moment-là. On l'a dit, à l'époque, ils étaient dans leur cuisine. Il n'a pas encore d'étoile. Comment il se retrouve devant les caméras ? Il est quand même guidé. Il a quand même un pif incroyable pour sentir son époque et savoir que c'est à la télé que maintenant les choses vont se jouer en 56, quoi.
C'est sûr. Surtout qu'il y avait Raymond Oliver juste avant lui, vous connaissez peut-être sa célèbre recette de crêpes, hein, et Bocuse lorgnait sur Raymond Oliver. D'ailleurs, il va essayer de l'amener dans la grande cuisine avec les frères Troisgros, et Oliver et Bocuse ne s'aiment pas trop parce qu'ils sentent Oliver que Bocuse est en train de monter. Et au tout début, il est tout timide. Hein, si vous observez Bocuse, c'est quand même quelqu'un de réservé. Il serre les bras contre lui et il se rend compte d'une chose, c'est que la télévision est l'avenir. Et la formule est l'avenir, le mot. Et c'est en cela que c'est un personnage de roman extraordinaire, Bocuse. C'est qu'il nous sert des anecdotes et des citations extraordinaires. Il disait, moi j'ai mes deux bacs, mon bac d'eau froide et mon bac d'eau chaude. Il disait, j'ai rien fait à l'école, mais je préfère savoir que 1947 est un bon millésime. Et alors qu'on lui demandait, monsieur Paul, quand vous voyagez, mais qui fait la cuisine quand vous n'êtes pas là ? Il répondait, ben les mêmes que quand je suis là. Voilà. Et donc il avait ce sens de la formule.
Il avait des punchlines. Il arrivait.
Il a très bien compris. Il l'est travaillé. C'est-à-dire que Flaubert avait son gueuloir et Bocuse descendait dans sa cave. Et puis une fois qu'il avait la formule, il l'a répété. Et petite anecdote, quand j'ai commencé à interroger tous les témoins de l'époque, très souvent, ils me racontaient exactement les anecdotes. C'était ce que Paul leur avait raconté. Je me suis rendu compte que quelqu'un avait écrit un roman avant moi, ouais. Et c'était Bocuse lui-même.
Mais du coup, il avait quand même... Enfin, il y a un aspect de sa personnalité. Il voulait quand même être une star, non ?
Il avait un flair incroyable. Il est devenu star, parfois, j'ai l'impression, quasiment à son insu. Mais il a compris que s'il poussait un petit peu son avantage, il arriverait loin. C'est-à-dire qu'on est dans un moment, vous savez, c'est le moment de la libération où tout est permis, quelque part. Voilà. Les gros caractères s'imposent. Peut-être qu'aujourd'hui, Paul Bocuse n'aurait pas pu exister. Voilà.
Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de chefs stars ?
Parce que Paul Bocuse a été formé à l'école de la douleur, de la guerre, et que tout était à construire. Mais tous ces chefs stars, ils doivent beaucoup à Paul Bocuse. Il va ouvrir le Japon aux chefs français, mais il va ouvrir aussi la France aux chefs japonais. Il va ouvrir l'Amérique. Chaque jour où nous parlons, Bocuse sert 2000 repas à Disney World. Chaque jour.
Aujourd'hui encore ?
Oui, oui. Il est... Quand il arrive aux États-Unis, c'est un champ debout, Disney World. Rien n'est construit. Ouais. Et il a l'intuition. Il met de l'argent. Il sait, il voit. Voilà. Bon, il aurait pu se planter. Hein,
mais plus grand chef d'entreprise que chef tout court, alors Bocuse, presque.
Oui, absolument. Ouais.
Ouais. On peut le dire.
Mais il avait cette façon aussi de... Lui, il détestait l'inventivité, si vous voulez. C'est pour ça qu'on retombe un petit peu sur la question de la nouvelle cuisine. Mmh. Ce qu'il voulait, c'était faire le même plat tous les jours, mais de mieux en mieux. Et c'est pour ça qu'il va tellement bien s'entendre avec les Japonais, car ils travaillent sur la même chose au Japon.
Oui, il y a un côté tradition aussi qui est très fort.
Exactement. Au Japon, un restaurant d'anguilles, il fait de l'anguille. Son père faisait de l'anguille, son grand-père faisait de l'anguille.
Mais vu comment vous le dépeignez, il aurait été sur TikTok, en fait.
C'est une évidence.
C'est sûr.
C'est une évidence. Et c'est tout le paradoxe de Bocuse, et qui est passionnant, c'est qu'il est à la fois très conservateur dans sa cuisine et ultra moderne. Mmh. Ultra moderne. Je peux...
Oui.
Je vais donner un dernier exemple. À un moment, Olivier Rollinger, qui fait des épices, hein, qui révolutionne aussi à sa façon la cuisine française, est accusé un petit peu par d'autres chefs de polluer la cuisine française. Je ne citerai pas les noms. Et on attend le jugement de Paul Bocuse. Qu'est-ce qu'il va dire? Et Bocuse prend la défense de Rollinger. Il a compris que la cuisine devait être en évolution permanente.
Côté melon, il disait, il n'y a pas eu d'après Mozart, comment voulez-vous qu'il y ait un après Bocuse?
Ah oui, j'avais l'intention de terminer l'émission là-dessus.
C'était du second degré ou c'était premier degré?
Non, non, non. Paul Bocuse se fait enterrer avec ses trois étoiles. C'est-à-dire que...
Qu'est-ce que ça raconte, ça?
Ça raconte que ses trois étoiles, c'était lui.
Oui, et personne
ça raconte qu'il n'y avait personne. Il aurait pu avant de mourir désigner quelqu'un. Ouais. Il y avait des gens. Ouais, il y avait Joël Robuchon. Il y avait Alain Ducasse. Il n'a désigné personne.
Vous écoutez France Inter. Il est 16h46. L'heure d'ouvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une émission, car avant Top Chef, avant Master Chef, avant Cauchemar en cuisine, avant Le Meilleur Pâtissier, il y avait ça.
Oui, chef. J'attends pas. Oui, chef. Oh, putain. Oui, chef. Non, ça va pas.
Je vous fais...
Non, oui.
Vous êtes à côté de moi.
Oui. Oui, chef.
Oui, chef, nous sommes en 2005 et à l'époque, c'est une petite révolution à la télévision française. L'émission est diffusée en prime time sur M6. Cette télé-réalité en 5 épisodes a suivi un jeune chef inconnu du grand public, Cyril Lignac, qui décide de former une équipe de jeunes pour ouvrir son restaurant. Oui, chef s'inspire d'une autre émission anglaise diffusée 3 ans avant, appelée Jamie's Kitchen. À l'époque, la cuisine n'est pas encore un spectacle permanent qui va faire les belles heures de M6 et des autres chaînes. La télé culinaire se résume surtout à des recettes filmées en studio avec la star des années 90.
Et là, chose qu'on ne devrait pas faire et qui n'est pas très jolie, je commence à le prendre et à lui sucer le derrière.
L'ortolan.
Mais en Maïté, évidemment, ouais. L'ortolan. Mais en 2005, Oui Chef apporte un coup de neuf. Le concept de l'émission est simple et inédit pour l'époque. Un chef, donc Cyril Lignac, recrute des jeunes sans diplôme, sans formation, souvent en difficulté, et les forme en conditions réelles pour ouvrir donc un vrai restaurant. On ne regarde pas une compétition, mais un véritable apprentissage, apprendre à cuisiner, à travailler en équipe, à tenir la pression d'un service, à se lever, à ne pas lâcher. Lignac a 27 ans à l'époque et il crée une vraie proximité avec ces jeunes qu'il forme, il les aide, il croit en eux. Il est exigeant, parfois dur, mais déjà obsédé par une idée, le métier peut sauver des trajectoires. Alors l'enjeu n'est pas de gagner une émission, je l'ai dit, mais de décrocher un métier, de faire tourner un restaurant qui ouvrira réellement à la fin. Ce restaurant en question s'appelle Le 15e, c'est le premier restaurant de Cyril Lignac qui va obtenir une étoile au Michelin. Le chef le fermera en 2019 et renoncera à son étoile. Mais Cyril Lignac incarne ce renouveau de la cuisine, un chef accessible qui devient une figure médiatique. Les épisodes de Oui Chef rassemblent entre 3 et 4 millions de téléspectateurs avec des pics plus élevés, ce qui place M6 régulièrement leader. C'est quand même inédit pour l'époque. Et c'est précisément ce succès d'audience qui convainc M6 que la cuisine peut devenir un grand spectacle de prime time, ouvrant la voie quelques années plus tard à Top Chef et à toute la vague des émissions culinaires.
Merci Manon. Gauthier Baptiste, là, si on devait résumer Bocuse à un truc, c'est justement le fait d'avoir sorti un métier qui est un métier de l'ombre et d'en avoir fait un métier de star, quoi.
Oui, absolument. Il a en quelque sorte pimpé le métier. Il en a établi les codes, les nouveaux codes. On l'ignore, mais la veste des cuisiniers, c'est lui. C'est lui qui a décidé de créer cette veste bragard. Ouais. Le col bleu-blanc-rouge des MOF, c'est lui. Pourtant, le concours existait avant lui, mais il l'a redesigné et il s'est fait pour lui-même construire une toque sur mesure de 15 cm supérieure à toutes les autres toques pour que sur les photos, on le voit toujours.
Mais on sait ce qu'il pensait un peu de ces programmes, ces émissions culinaires.
Je pense qu'il aimait ça, oui. Ouais. Oui, absolument. Je suis même sûr qu'il regardait.
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël. sur France Inter.
La gastronomie réserve de grandes émotions, aussi bien positives que négatives. Pierre Courade peut en témoigner, lui qui lundi, au mépris de toute logique, a choisi de s'écarter des spécialités du Zaman, spécialité figurant sur la seule partie de la carte qui compte, celle qui s'intitule le coin des gourmands, pour s'aventurer sur un plat du jour dont l'ingrédient central était les petits pois. Que s'est-il passé dans sa tête? À quel moment a-t-il pensé que c'était une bonne idée de commander des petits pois dans un restaurant libanais? Le résultat était hélas écrit d'avance, il a boudé pendant tout le déjeuner, honteux d'avoir fait le mauvais choix et jaloux de nos merveilleux kefta et autres shawarma. Pierre, alors que désormais votre enceinte de vélo JBL diffuse en boucle une chanson qui vous va si bien, vous allez nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur Paul Bocuse en une minute chrono, mon cher
cette
Pierre.
Cette histoire de petits pois me fait penser à l'anecdote des haricots verts à peine cuits, servis par Bocuse, racontés par notre invité au critique gastronomique Goemio, et qui ont estimé que c'était grandiose dans l'extrême simplicité. On dirait une critique de n'importe quel resto bistronomique du 11e arrondissement. Mais c'est de là qu'est née la nouvelle cuisine, un terme dont Paul Bocuse s'est accommodé. Bocuse qui fait donc l'objet d'un livre écrit par notre invité Gauthier Battistella, ancien journaliste gastronomique au Guide Michelin. Une biographie romancée mais très documentée du plus grand chef du monde, triplement étoilé, devenu synonyme de la grande cuisine française. Je crois que j'ai avalé encore des petits pois.
Oui, encore des petits pois qui sont coincés dans la trachée, là. Expulsez-les.
Je vais essayer, ouais, mais depuis hier, c'est un peu compliqué. C'est lui qui a dépoussiéré Paul Bocuse, les grands plats traditionnels, qui a fait entrer les chefs à la télévision. Il a fait des cuisiniers des rockstars. Il a exporté la cuisine française à l'étranger sur son seul nom. Un nom qu'il n'a eu de cesse de vouloir redorer après une affaire familiale rocambolesque dont nous a conté notre invité. Bocuse, c'est aussi un chef d'entreprise, un homme de plusieurs restaurants et de plusieurs femmes. Une faconde de bonnes formules et un adage, travailler comme si on devait vivre 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain. Bocuse, c'est la preuve que la cuisine française est aussi une gastronomie. L'Italie a-t-elle un Bocuse? Non, c'est QFD. Oh.
On en revient à cette histoire de la gastronomie italienne. Vous revenez toujours à ça, mon cher Pierre.
Bah, écoutez, c'est l'occasion ou jamais.
L'occasion ou jamais.
Ça va, buvez-le un peu, vous êtes tout rouge.
C'était un bon résumé, mais pour en savoir plus sur Bocuse, il y a évidemment le livre de notre invité chez Grasset. Il vous en coûtera 22 euros. Pierre, lui, était gratuit. Pour lui, le summum de la gastronomie française se déguste une fois l'an dans les travées du Hellfest, où de sympathiques food trucks vous servent de généreuses portions de tartiflettes au reblochon pasteurisé, ce qui mi-joint est vraiment le plat idéal. Bonjour Harold Barbet.
De mini-croutons orangés au reflet de soleil levant, un jus couleur curry, une adhérence de miel lente et obstinée qui rappelle les douces saveurs d'Italie. Voici l'état de mes yeux au réveil après cette sévère conjonctivite qui m'a gâché mes vacances. Mais terminé le bilan santé, aujourd'hui on s'intéresse à une légende de la gastronomie française, monsieur Paul Bocuse. Alors je vois tous venir de très loin, c'est Harold qui fait la chronique, forcément il va partir sur l'histoire de Paul Bocuse le polygame, oui, avec tous les clichés qui vont bien avec, Bocuse la baise, Bocuse le niqueur, Paul Bocuse, Paul le farcisseur de dinde, oh, Bocuse, maître queue et roi de la bifle. Sachez que je n'irai pas sur ce terrain-là. Ce serait bien trop facile et peu respectueux de la légende. Et bien sûr, j'aurais pu trouver tout un tas d'autres surnoms. Le taquineur doré, le cervelas de lion, ketchup mayo, le grand popol. Mais non, je m'y refuse. Nous sommes sur le sujet très sérieux de la gastronomie française. Et sans mauvais jeu de mots, oui, laissez-moi vous dire que je ne mange pas de ce pain. Mon objectif dans cette chronique est de rendre hommage à cet immense chef français. Paul Bocuse, légende de l'art culinaire français, né en 1926 à Lyon, comme par hasard, numéro de département 69. C'est la dernière blague de cul. Non, en vrai, il y en a encore plein d'autres. Mort à 91 ans, comme quoi aller courir le dimanche matin, ça sert à rien. Bien manger et bien baiser, c'est la clé d'une longue vie bien remplie. C'est quoi les deux autres trucs bien remplis chez Bocuse? Ses restaurants et leur longue liste d'attente, évidemment. Avant de se révéler au monde... Avant de se révéler au monde comme un esthète culinaire, Bocuse était un héros de guerre. Grièvement blessé pendant la Seconde Guerre mondiale, sauvé par les Yankees, il en viendra même à se faire tatouer un coq.
C'est dans le quiz.
Ben oui, il ne faudra pas le dire. Il en viendra même à se faire tatouer un coq sur l'épaule en leur compagnie. C'est d'ailleurs peut-être à ce moment-là que commencera le chapitre polygame de Paul Bocuse, quand il interpellera de jeunes New-Yorkaises en contractant le biceps pour fièrement exhiber son tatouage et dans un anglais un peu approximatif. Hey, do you want to see my cock? La vraie question, c'est quand on est l'un des plus grands génies de l'histoire de la cuisine française, peut-on encore se laisser aller aux bassesses de la cuisine de gens normaux tels que nous? Imaginez Bocuse, un soir de Saint-Sylvestre, dans une salle des fêtes, perdu dans ses pensées, en train de plier une serviette en papier, recréant une rose à la perfection. Rosa Serenitas, rose de la sérénité, symbole du renouveau en cette nouvelle année. quand tout à coup, Martial, un cousin des Ardennes, se saisit de la serviette. Oh, l'autre, t'en as pas marre de plier ta serviette comme une gonzesse ? Secondé par Véro, son épouse. Dis donc, le génie de la cuisine, il pourrait peut-être aller beurrer deux ou trois toasts avec Patricia, non ? Déambulant, en seule compagnie de sa propre détresse, au milieu de toute cette beaufrie, Paul tombe par surprise sur un château Pétrus 1998. Martial, aurais-tu un tire-bouchon ? Un tire-bouchon ? Tire plutôt sur mon doigt ! Là, c'est moi, ça sent le pâté ! Et probablement que prostré sur sa chaise, pendant que les convives réalisent une chenille autour de lui, Paul Bocuse aurait imaginé un plat triplement étoilé à base de larves, car c'est ce que font les créateurs de génie, ils ne cessent jamais de créer. Et ben voilà, première chronique de l'année, et je m'en suis sorti comme un chef.
Bien joué, Harold, pour cet auto-satisfait. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom et en tournée avec votre spectacle le 24 janvier à Sens, le 31 à Caen, le 13 février à Besançon, toutes les dates sur haroldbarbet.com. Merci Gauthier Battistella de nous avoir permis de découvrir sous un autre angle ce géant de la cuisine française. Je rappelle votre roman Bocuse, ça sort, c'est bien fait, aujourd'hui chez Grasset. Merci beaucoup. Merci. Zoom Zoom Zen.